de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Restriction de voyage assouplie, Singapour prépare l'aéroport de Changi. Tirant les leçons de la pandémie de COVID-19, les pays de G20 recommandent des mesures pour mettre fin à la propagation de la tuberculose. Les États-Unis assistent à une réunion sur la situation en Afghanistan dans la nuit en Chine. L'Allemagne annonce un avertissement précoce d'une éventuelle crise d'approvisionnement en gaz russe. Le gouvernement utilisera les îles Riau comme centre d'exportation pour les produits des MPME. Le ministre indonésien du commerce est optimiste pour devenir le centre mondial de la mode musulmane. Et l'Indonésie apporte 6 missions au forum TIIWG du G20. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. L'aéroport de Changi à Singapour se prépare à recevoir plus de passagers alors que le pays assouplit les restrictions de voyage et de COVID-19. Singapour souhaite réduire de moitié le nombre de passagers aériens par rapport au niveau d'avant la pandémie à la fin de 2022. Ces efforts consistent notamment à assouplir les règles strictes de circulation dans l'aéroport et à permettre aux voyageurs d'utiliser les installations, les services, les boutiques et les restaurants du terminal. Le gouvernement s'est également engagé à hauteur de 500 millions de dollars singapouriens, soit environ 5,2 billions de roupies, pour soutenir les compagnies aériennes et les travailleurs au cours de l'exercice à venir. Le ministre des Transports de Singapour, S. Iswaran, a déclaré mercredi 30 mars que l'industrie aéronautique tentait de recruter plus de travailleurs. Le programme de lutte contre la tuberculose reste une priorité mondiale, très contagieuse et potentiellement mortelle. Cependant, le programme de traitement de la tuberculose a connu un revers en raison de l'épidémie actuelle du coronavirus. En conséquence, de nombreux pays à revenus faibles en intermédiaire éprouvent des difficultés en termes de capacité et de financement pour lutter contre la tuberculose. Cela a été transmis par le directeur exécutif adjoint du partenariat AT à la tuberculose, Soufanan Saou, dans le groupe de travail sur la santé HWG, sur l'événement parallèle sur la tuberculose lors de la réunion du G20 qui s'est tenue dans la région spéciale de Yogyakarta mercredi. Selon Saou, la tuberculose doit être intégrée dans une stratégie de préparation et de réponse à une pandémie. En effet, la prochaine pandémie aura très probablement un schéma de transmission aérienne. Il a déclaré que l'investissement dans la prévention de la tuberculose, qui est une maladie infectieuse transmise par voie aérienne, renforcerait la résilience du système de santé face aux futures pandémies. Saou recommande deux étapes qui peuvent être utilisées pour les pays du G20 pour éliminer l'épidémie de tuberculose en 2030, comme convenu dans les objectifs de développement durable, ODD. L'envoyé des États-Unis a participé à la réunion pour discuter de la situation en Afghanistan. La réunion a été organisée par la Chine à Tunsi, dans la province d'Anhui, du mercredi au jeudi 31 mars. L'envoyé spécial de la Chine, Yu Qiaoyong, tiendra une réunion de la Troïka plus assistée par plusieurs envoyés des États-Unis, de la Russie et du Pakistan. Ceci est une information du ministère chinois des Affaires étrangères, MFA. La réunion s'est tenue en marge de la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan au même endroit. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également assisté à la réunion et a même eu l'occasion de s'exprimer pendant 5 minutes pour donner son point de vue sur l'Afghanistan. La réunion impliquant la Chine, les États-Unis et la Russie s'est en fait tenue au milieu de la crise ukrainienne qui a conduit à la détérioration des relations américano-russes et américano-chinoises. L'Allemagne a annoncé mercredi un avertissement précoce d'une éventuelle urgence d'approvisionnement en gaz. L'Allemagne a déclaré que la mesure était conçue pour se préparer au risque de perturbations ou d'arrêt des flux de gaz naturel en provenance de Russie. Comme cité par Antara, l'annonce est le signe le plus clair que l'Union européenne se prépare à faire face à la rupture d'approvisionnement après avoir imposé des sanctions sans précédent à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Moscou prévoyait auparavant d'introduire un nouveau mécanisme qui transférerait les paiements de son gaz en roubles. Les demandes ont été rejetées par les pays du G7, dont l'Allemagne, et ont fait craindre des perturbations. Le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, UKM Teten Masduki, a déclaré que le gouvernement utiliserait les îles Riau comme centre d'exportation pour les produits des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans l'ouest de l'Indonésie. Cela est dû à la valeur stratégique des îles Riau, voisines de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Cambodge. Teten Masduki l'a transmis lors de la campagne du mouvement national fièrement fabriqué en Indonésie à Batam dans les îles Riau mercredi 30 mars. Il a ajouté que les îles Riau ont un énorme potentiel. Selon Teten Masduki, le tourisme dans les îles Riau est numéro 2 après Bali. Il est donc très approprié comme vitrine pour les produits des MPME. Pour accroître la compétitivité des produits des MPME sur le marché mondial, le ministère des coopératives et des PME préparera un écosystème, notamment en modernisant les équipements de production à travers le conseil d'une maison de production commune. Le ministre indonésien du commerce, Mohammad Lutfi, estime que l'Indonésie deviendra la Mecque de la mode musulmane dans le monde. Cela a été transmis par le ministre Mohamed Lutfi après avoir rencontré le vice-président Maruf Amin. Le ministre, dans un communiqué reçu à Jakarta mercredi, a déclaré que la consommation mondiale des produits de mode musulmans dans le monde en 2024 devrait atteindre 311 milliards de dollars américains. Cette valeur devrait augmenter par rapport à 2019 qui s'élevait à 277 milliards de dollars américains. Pour cette raison, le ministère du Commerce veut capter et mettre en valeur le potentiel de l'industrie de la charia en Indonésie, dont l'une, la mode musulmane. Mohamed Lutfi a déclaré que le ministère indonésien du Commerce s'est engagé à renforcer l'écosystème de l'industrie halal à travers le développement de la mode musulmane. L'an 2 sera augmenté la mise en œuvre de la semaine de la mode musulmane de Jakarta. Le gouvernement indonésien apporte 6 missions qui ont été convenues par toutes les présidences présentes lors de la réunion du groupe de travail sur l'investissement et l'industrie du commerce TIIWG-G20 2022. Cette activité a eu lieu à Solo dans le centre de Java mercredi. Le directeur général des négociations commerciales internationales du ministère du Commerce, Jatmiko Briswijaksono, lors de la réunion du TIIWG G20 à Solo, a mentionné les 6 points de l'ordre du jour de la mission. Entre autres, le système commercial bilatéral, répondre aux besoins du secteur de la santé, assurer l'égalité d'accès aux vaccins, aux médicaments et aux biens essentiels. Bon séjour tard, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Zeritak bonsoir, voici le compte diplomatique ayant pour le titre l'Indonésie enregistrée des transactions de produits alimentaires et des produits agricoles le premier jour de l'exposition des supermarchés du Caire 2022. L'Indonésie participe à nouveau à l'exposition des supermarchés du Caire au Centre international des congrès et des expositions du Caire, CICC, à Nasser City au Caire. Le Salon des produits alimentaires, des boissons et des produits agricoles se tient du 24 au 31 mars 2022. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Lutfi Raouf, en marge de l'ouverture du pavillon indonésien, a déclaré qu'avec une augmentation des exportations de l'Indonésie vers l'Égypte en 2021, qui atteint 1,653 milliards de dollars américains, l'Indonésie continuera à effectuer davantage de promotions, y compris la participation de l'Indonésie à ce salon des supermarchés du Caire. La pénétration de nouveaux marchés ainsi que le renforcement de l'image de marque des produits indonésiens sont les deux objectifs à atteindre dans la participation de l'Indonésie au salon des supermarchés qui se tient chaque année avant le mois de Ramadan. Pendant ce temps, l'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire, Irman Adi Purwanto Mufti, a déclaré que les produits indonésiens exposés à l'exposition des supermarchés comprennent des produits de café robusta et arabica, des biscuits, des bonbons et du café moulu instantané, de la farine, des engrais organiques, des boissons de l'eau de coco, des suppléments de santé, des produits artisanaux des provinces de Nusa Tenggara West et de Cirebon, ainsi que des produits de services d'expédition de fret. Irman Adi a également expliqué que le premier jour de l'exposition de supermarché, l'Indonésie a enregistré une transaction potentielle pour des produits engrais organiques nanotechnologiques brevetés, des produits de café et des collations de 670 000 dollars américains. Le pavillon indonésien d'une superficie de 40 mètres carrés fait également la promotion de la beauté de la nature et des sites touristiques, ainsi que la promotion du programme Spice Up the World. Chers auditeurs, c'était le cours diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
C'est Zeritok, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 mars 1928. Le monument de l'Équateur a été érigé dans la ville de Pontianak. Le monument de l'Équateur est situé sur la rue de l'Équateur au nord de Pontianak dans la province de Kalimantan Occidentale. L'emplacement est à environ 3 km du centre de la ville de Pontianak vers la ville de Mempawah. L'histoire de la construction de ce monument peut être lue sur les notes en langue néerlandaise contenues dans l'édifice. La note indiquait « Le 31 mars 1928, une expédition internationale était arrivée à Pontianak, dirigée par un géographe néerlandais pour déterminer le point, le jalon de l'équateur dans la ville de Pontianak. » Pasong metnong alabedamang dutrang teang Mars amil nosang katrabeng ang lafang dudukam dudetok namang dalabiyang dawaila galguda desenov. Lebal galguda Indonesia desangsis umiukonus lunong dalabiyang desenov oila etang bol Garuda Indonesia dari kopok detalang Betutu Palembang alay kopok de Polonia Medan. Setabiyang ate detukne lebeng tut Mars amil nosang katrabeng ang Paksen teroris dirigia Pak Imran bin Muhammad Zain esusong identifiye komando du grup islamik komando jihad. Ilzong eksize ke le kolek kiong tete detenu ap kelang sidang de Cicendo a Bandung dang luas de Java suali bere. Le detuk numang atang song apoje dramatik ale kopok don muang de Bangkok ang Thailand le terang tiang Mars amin lo sang katerbeng ang apre le red du grup ang paka komando dirigia Pak Lelitonang Kolonel dang Fangtri Sintong Panjaitan. No finisong listuak duzuk du avec l'avènement du trang tiang Mars 1954, le Dalai Lama arrive en exil en Nantes. Le 14e Dalai Lama était le chef du Tibet qui était entronisé en 1950, mais à cette époque, le Tibet était sous occupation chinoise. Le mouvement de résistance tibétain dirigé par le Dalai Lama peut être écrasé par la Chine. Le Dalai Lama, sa famille et ses partisans ont fui le 17 mars 1959 vers Nantes à travers l'Himalaya à pied. Le voyage épique s'est terminé le 31 mars 1959 en Nantes. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Ces amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et on pour le titre. Les MPME de Surabaya sont invités à s'impliquer dans la réduction des déchets plastiques. La commission B chargée de l'économie de la Chambre régionale des représentants des PRD de la ville de Surabaya a demandé à 23 000 micro, petites et moyennes entreprises MPME de la ville de Surabaya, Java Oriental, de s'impliquer dans les efforts de réduction des déchets plastiques. Le membre de la commission B du DPRD de Surabaya, Alfian Limardi à Surabaya, mardi le 29 mars dernier, a déclaré que les données du Système national d'information sur la gestion des déchets, SIPSN de 2020, ont révélé que les déchets plastiques représentaient 19,4% de tous les déchets à Surabaya. Selon Alfian, le problème des déchets ne peut pas seulement reposer sur la communauté pour réduire la quantité de déchets. Les producteurs sont également responsables des déchets qu'ils produisent. Ces producteurs ne sont pas seulement des producteurs à grande échelle, mais aussi des MPME. Actuellement, Alfian a déclaré qu'il y a environ 23 000 MPME à Surabaya qui doivent être impliqués dans les efforts de réduction des déchets plastiques. Comme première étape, selon lui, le gouvernement de la ville de Surabaya pourrait impliquer les MPME de Kampung Kue, Kampung Tempe, Kampung Lontong et Kampung Iklim. Je veux dire Kampung Pro Iklim. En outre, selon lui, les acteurs des MPME peuvent réduire les déchets plastiques en commençant à utiliser des emballages de produits respectueux de l'environnement, tels que des sacs en tissu, des emballages en papier, du carton ondulé en remplacement du film à boules en plastique et du ruban adhésif en papier au lieu du ruban adhésif en plastique. Les MPME du secteur de l'alimentation et des boissons peuvent commencer par ne pas fournir de paille en plastique. De plus, les pailles en plastique sont rarement recyclées. Pendant la période de socialisation, sa partie lancera des appels dans les supermarchés, les marchés modernes, les restaurants et les marchés populaires concernant l'interdiction d'utiliser des sacs en plastique et l'obligation d'utiliser des sacs de course écologiques. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Coba menyapa, usah lagi kau simpan kecewa karena dia. Beri dirimu kesempatan untuk menyamai cinta. Rasakan kembali asmara.
berdua. Tak ada sesal ku rasa, karena kau layak bahagia.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, il est une tradition unique qui est préservée par les femmes de Gorontalo, surtout avant le mois de Ramadan. C'est ce qu'on appelle la tradition Mohibada. Mohibada est une tradition d'utilisation de gommage ou de masque facial par les femmes de Gorontalo. Ce masque facial est fabriqué à partir d'un mélange de diverses épices, entre autres Umopoto ou Camphéria Galanga, Zinziber Kasumunar, et alawahu ou curcuma. Pour obtenir un maximum d'avantage, il est recommandé d'utiliser un mélange de farine de riz gluant afin que le résultat de la pâte à masque facial soit plus lisse. Pour faire les potions Mohibada sont assez simples. Initialement, le riz gluant est trempé. Le riz gluant qui a été trempé est ensuite moulu avec diverses épices jusqu'à consistance lisse. Ensuite, les potions Mohibada sont prêtes à être appliquées sur le visage et laissées pendant un certain temps afin que l'efficacité de ces potions s'infiltre à travers les pores. Désormais, ces paquets d'épices traditionnels peuvent être achetés sur les marchés traditionnels au prix d'environ 15 000 rupiah par colis. Les potions ont de nombreux avantages pour la peau. Pour les femmes qui utilisent régulièrement ces potions, leur peau sera plus ferme, plus saine, radieuse, plus fraîche, moins ridée et humide. De plus, ces potions typiques de Gorontalo sont tout à fait sûres à utiliser régulièrement car elles proviennent d'ingrédients naturels. Avec autant d'avantages, la tradition Mohibada peut être pratiquée en dehors du mois de Ramadan. Cependant, la mise en œuvre de Mohibada pendant le mois de jeûne devient plus spéciale. Pendant le Ramadan, la peau sera sèche. De plus, le temps à Gorontalo est chaud, donc la peau est facile à sécher. En plus du mois de Ramadan, la tradition Mohibada est également un rituel lors des mariages traditionnels de Gorontalo. Les futurs mariés, les mères et les filles sont autorisés à détenir des Mohibada. La tradition Mohibada lors des mariages traditionnels se déroule dans une série de bains de sauna ou molungudu. Molungudu est un bain traditionnel ou auto-nettoyant pour les femmes avant leur mariage. Cette activité se poursuit avec siraman ou momohuto. La future mariée ne peut être accompagnée que d'une femme qui est la parente la plus proche. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir.
Untuk sudah
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée « La Bibliothèque nationale présente alphabétisation sur l'Indonésie à la présidence du G20 ». Le directeur de la Bibliothèque nationale, Muhammad Sharif Bando, a déclaré que son parti présenterait l'alphabétisation sur l'Indonésie à la présidence du G20 à la fin 2022. Depuis novembre 2021, la Bibliothèque nationale d'Indonésie prend une décision demandant que 650 bibliothécaires soient répartis dans toute l'Indonésie. L'objectif est d'explorer le potentiel de quartiers à la fois en matière de tourisme, de gastronomie, de ressources naturelles et les autres. Actuellement, le matériel concernant l'Indonésie est en cours de collecte et sera présenté à la présidence indonésienne du G20. Il fournit des informations sur l'Indonésie parce que la bibliothèque est une source d'informations. Le gouvernement indonésien a défini trois priorités nationales lors de la présidence indonésienne du G20 en 2022. À savoir une architecture sanitaire mondiale plus inclusive, la transformation numérique et la transition énergétique. Les trois principales priorités ont été utilisées comme nouveaux programmes de discussion ou programmes phares du groupe de travail et du groupe d'engagement Serpatrek lors de l'événement sur le thème « Récupérer ensemble, récupérer plus fort ». Selon Sharif, ce que fait actuellement la Bibliothèque nationale d'Indonésie est conforme à l'agenda prioritaire du G20, à savoir la transformation numérique. Depuis les dernières années, la Bibliothèque nationale d'Indonésie fait la transformation pour réaliser l'écosystème numérique indonésien. Les transformations réalisées incluent la présentation de l'application e-Pusnas accessible au public à tout moment et n'importe où. À travers cette application, le public peut accéder à des documents de lecture ayant des livres aux revues internationales. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Suci hatiku untuk menyelidiki.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyō shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
To the world.
Chargé tard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson de Ruth Sahanaya. Serge Hitta, Ruth Sahanaya ou Ute, une diva indonésienne active dans le monde du chant depuis 1987. Son premier album, Seputi Kasih, sorti en 1987, a explosé sur le marché à cette époque. Sa carrière est de plus en plus réussie après la sortie de la chanson Kaula Segalanya. Le succès de la chanson a incité de jeunes musiciens tels que Claresta et Sami Simorangkir à la réarranger avec une version moderne. Kaula Segalanya raconte l'histoire de quelqu'un qui est très important dans sa vie. Selon elle, il est tout. Chers auditeurs, voici Ruth Sahanaya va chanter une chanson intitulée Kaula Segalanya. Tu es tout. Bonne écoute.
Thank you.
Bonjour Jeter, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.